Mais bonjour à toutes et à tous. En ce certain rentrée de vacances, ou ceux qui sont là pendant tout cet été avec nous, vraiment que la paix et l'amour du Seigneur soient avec vous. J'ai invoqué dimanche dernier le témoignage, parlé d'un livre d'une femme, Madame Loiseau, la veuve de Bernard Loiseau, chef étoilé disparu en 2003. Le titre du livre écrit par sa veuve, c'est « la revanche d'une femme ». C'est un livre qui a du succès. Mais après la mort brutale de son mari, Dominique Loiseau prit la décision de poursuivre l'œuvre de son mari. Elle dit pour le nom de son défunt époux, il fallait continuer pour l'équilibre de leurs enfants qui étaient encore très jeunes. Elle dit, je ne voulais pas que notre monde disparaisse définitivement, car la maison Loiseau s'écroule comme un château de cartes. Que nos enfants sombrent dans un abîme de souffrance, je devais me ressaisir et avancer. Comme elle le mentionne dans le livre, elle était loin d'être féministe, mais elle a voulu montrer que les femmes pouvaient relever les montagnes, comme ça s'est fait en 1914 ou en 1940, lorsque les hommes sont allés en guerre. Mais au-delà de l'exemple brillant de Madame Loiseau, j'aimerais que nous intéressions plus particulièrement au témoignage qu'elle donne de son défunt époux, Bernard Loiseau. Pourquoi parler particulièrement de la vie de ce couple, plus particulièrement de ce chef étoilé? Comme je disais dimanche dernier, pour parler vraiment de la grâce universelle ou générale de Dieu. Oui, cette grâce, ces dons, on peut dire, ces qualités que Dieu accorde aux uns ou aux autres, qu'on soit chrétien ou pas. J'aimerais, si vous le permettez, faire vraiment un vite un survol de la vie de M. Loiseau. M. Bernard Loiseau est né dans une famille modeste le 12 janvier 1951 dans le Puy-de-Dôme. Chez mes parents, disait-il, on faisait attention aux dépenses, on n'avait pas peur de travailler dur. Mes parents nous ont inculqué comme principe l'importance du travail, la droiture et le besoin de bien faire des choses. C'est de quel bel exemple. Il entre à 17 ans dans un grand restaurant comme apprenti et obtient son CAP de cuisine à 20 ans. Quelques années plus tard, il rachète le restaurant où il a été apprenti, à Saulieu, en Côte d'Or. Après l'achat de ce restaurant, il s'engagea par vraiment la rigueur au travail à obtenir le restaurant le plus étoilé de la Côte d'Or, même, disait-il, même de la Bourgogne. Oui, en moins de 30 ans, il obtint sa première étoile. Quelques années après, en 1981, il décrocha une deuxième étoile du guide Michelin. En 1986, il est élu cuisinier de l'année par Gold et Milo avec une moyenne de 19 sur 20. Vous ne savez pas qu'on donnait des notes, oui, l'exigence. En 1989, la Côte d'Or s'était vue décerner le prix du meilleur petit déjeuner par l'association des relais et châteaux. Oui, je vous dis, le temps ne nous permettrait pas d'énumérer tout ce qu'il a eu compris. Mais en 1991, il obtient le Graal, la troisième étoile tant attendue. Sa persévérance, sa rigueur, sa détermination avaient payé. Le jour de la remise de la troisième étoile, le responsable du guide Michelin lui dit ceci. Dit, la fréquentation de ton restaurant va augmenter. Certains clients vont probablement être plus critiques et plus pointilleux. Mais surtout, ne changez rien et continuez à travailler comme vous le faites. Dans sa façon de travailler, la rigueur au travail était reconnue par tous. C'était un homme de projet qui voulait conquérir le monde, qui voulait présenter au monde entier le patrimoine culinaire français. D'ailleurs, sa femme l'appelait toujours Monsieur Projet, tellement il avait toujours des projets. Le jour où il obtint la troisième étoile au journal de 20 heures, on lui demanda s'il n'avait pas peur de prendre la grosse tête. Il répondit tout simplement, « J'en ai tellement bavé qu'il n'y a aucun risque que je prenne la grosse tête. » Pas de place pour l'orgueil, car pour lui, tout s'obtenait par la rigueur et la constance dans le travail. C'est vrai qu'en lisant ce livre, c'est un livre que j'ai lu pendant cet été. Vous pouvez vraiment, c'est un très beau livre. Pour plusieurs personnes qui se souvenaient de lui, c'était un excellent époux, un bon père de famille, un homme chaleureux, très attentionné. Même j'ai été frappé en lisant ce livre par un détail. On nous dit le matin, quand il arrivait dans son restaurant, on lui servait toujours un café. Et après le café, un jus d'orange. Mais il prenait le jus d'orange dans la même tasse pour ne pas donner plus de travail aux employés. C'est un détail, mais ça montre le personnage. Il avait le sens de l'exigence, le goût de la revanche, le goût de la recherche au niveau du bien-être. Oui, on le reconnaît qu'il travaillait avec soin et sérieux. Il faisait toujours preuve de régularité, de constance et d'efficacité dans son travail. J'insiste bien, c'est vrai, quel exemple en ce qui concerne le travail. Un soir, sa femme le rencontra dans le restaurant qui était déjà très grand. Elle s'occupait des bureaux, une ancienne journaliste. Il dit vaguement à sa femme, « Je vais me reposer à la maison, je suis fatigué. » Sa femme avait trouvé ça très bizarre pour quelqu'un qui a toujours travaillé. Quelques heures après, sa femme est repartie à la maison aussi pour chercher un papier. Quand elle est arrivée, elle a trouvé la porte de la chambre fermée. Elle a forcé, heureusement qu'elle avait une deuxième clé, elle a ouvert la porte de la chambre. Monsieur Bernard Loiseau était mort. Monsieur Bernard Loiseau s'était donné la mort, il s'était suicidé. Quelles furent les causes de cette mort brutale? Les causes de cet homme tant aimé de tous, adulé dans sa région et dans le monde entier. Qu'est-ce que cette mort brutale aussi, atroce, peut nous apprendre? Nous reviendrons là-dessus. J'aimerais que nous revenions dans la parole de Dieu. Quelle est notre mission sur terre? Nous avons vu dimanche dernier, dans le livre de la Genèse, que Dieu plaça l'homme et la femme au milieu du jardin pour le cultiver, le garder et de nommer les animaux dans le jardin que le Seigneur qualifia de très bon, comme le reste de sa création. Mais le texte que j'aimerais que nous méditions ce matin se trouve dans le livre des Proverbes, quelques versets, je dirais un peu comme un verset parallèle à Genèse que nous avons déjà lu. Proverbe chapitre 27, verset 18, qui nous dit ceci. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Verset 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Chapitre 28, je continue, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. La Bible nous dit ici, frères et sœurs, sans trop de commentaires, celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Essaie de connaître tes brebis. Prends du temps dans ce que nous faisons pour avoir toujours les résultats qui peuvent être positifs. Comme les brebis devaient connaître la voix de leur maître aussi, le bon berger, devait connaître ses brebis. C'est-à-dire savoir prendre soin des brebis, savoir les observer, parce que prendre soin, ce n'est pas en quelques minutes, ce n'est pas en quelques jours même, il faut du temps. Donner soin à ses troupeaux, cultiver son champ pour être rassasié de son pain. Donc nous voyons que la Bible ici, vraiment selon la vision chrétienne, montre que nous devons travailler d'une manière régulière, d'une manière constante. Nous sommes appelés à toujours travailler. À travailler quel que soit le métier, avec beaucoup d'efforts. C'est ce que dit le psaume 126. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Quel que soit le métier, le Seigneur nous appelle à nous appliquer là où nous sommes. Là où nous sommes. Appelé à acquérir, à développer l'amour du travail. Nous avons vu, je répète ce que nous avons vu la semaine peut-être dernière, que le travail est une bénédiction de Dieu et non une malédiction. Oui, on peut ressentir certaines frustrations dans certains emplois, mais c'est toujours le travail est une bénédiction de Dieu. Quel que soit l'emploi, nous sommes appelés à avoir l'amour du travail. Un désir de chercher toujours la perfection. Parce que Dieu nous a placés dans un champ qui était parfait. Donc il nous appelle simplement à suivre son exemple. À travailler pour suivre l'exemple de notre Seigneur. Nous sommes des créatures à l'image de notre Dieu. Nous sommes appelés à suivre son exemple, c'est-à-dire chercher l'excellence dans tout ce que nous faisons. Tout travail bien fait produit toujours, Seigneur, frères et sœurs, des résultats positifs pour notre bien-être et pour le bien de la communauté, pour le bien de ceux qui nous entourent. Celui qui soigne, nous dira la parole de Dieu, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. L'apôtre Paul dira aux chrétiens de Corinthe, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ici, il parle de qualité et de quantité. C'est-à-dire que nous sommes toujours amenés à voir ce que nous faisons. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a toujours cette recherche du bienfait? Nous sommes appelés, frères et sœurs, à travailler. Il insistera toujours l'apôtre Paul aux Galates. Il leur dira, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Bien sûr, je prends ici d'une manière métaphorique au domaine spirituel. De celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates chapitre 6. Nous sommes appelés à prendre soin du jardin que le Seigneur nous a confié. Prendre soin, c'est s'arrêter. Le temps de s'arrêter pour faire le bilan, pour remettre tout entre les mains du Créateur, pour que nous ne tombions pas dans l'angoisse. L'angoisse de tout perdre, la peur de ne pas obtenir les résultats escomptés. Nous devons toujours travailler, mais en travaillant avec le Seigneur. Voyons que ce qui arriva à cet homme, à Bernard Loiseau, après sa troisième étoile, il donna des interviews dans des journaux télévisés. Mais son épouse écrit ceci. Mais après la coup bue, il avait fallu reprendre le travail avec sérieux. Car si cette étoile était bien entendu une bénédiction, elle était aussi le début d'une nouvelle angoisse. Car c'est de la perdre, de ne plus être au top. Cet homme aux qualités multiples vivait dans l'angoisse de tout perdre. Il ne dominait plus le travail, mais c'est le travail qui le dominait. Même quand son épouse, après quelques vies ensemble, vie commune, pensa qu'il était temps qu'ils aient des enfants, il était d'accord à avoir des enfants, mais à une seule condition. Il dit à sa femme, il est hors de question qu'un bébé me dérange pendant le service ou que les pleurs viennent perturber mes nuits. Le restaurant et cette troisième étoile étaient restés sa priorité absolue. Donc il était devenu esclave de son travail. Oui, je pense que ça nous appelle les uns des autres. Ce qui est arrivé à cet homme arrive aussi aux chrétiens. Le travail ou la richesse ou la notoriété qu'il procure ne doivent jamais devenir des idoles, des objets qui nous dominent. Dominique Loiseau se rendra compte plus tard que son épouse souffrait de troubles bipolaires. Il avait gravi la montagne sans jamais se retourner. Arrivé au sommet, il fallait toujours qu'il pousse les montagnes. Il n'avait jamais de limites pour calmer ses angoisses. Elle dira, la fatigue devait accentuer ses inquiétudes tellement il travaillait. Et ça pouvait même biaiser sa perception de la situation. Quand il s'est suicidé, il avait 27 ans de travail intense derrière lui sans réelle coupure. Oui, connu du monde entier. Je suis aimé. Mais les Japonais venaient passer du temps en Kodo pour passer du temps avec lui, pour voir sa façon de travailler. Mais cet homme n'a jamais pris le temps. Il se donna la mort à cause de fatigue. Un de ses amis dira un jour, il travaillait durement pour fuir ses démons. Le but du travail, frères et sœurs, le but du travail, un travail bien fait selon la vision chrétienne, n'est pas pour fuir des démons ou se faire un nom ou évacuer les angoisses face à l'existence. Oui, reconnaissons-le, le travail peut atténuer nos craintes du lendemain, mais ce n'est pas son but premier. Le travail, qui est une bénédiction de Dieu, nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu pour la force, pour les forces qu'il nous donne pour accomplir ce travail. Parce que nous savons que ce travail qu'il nous donne, qui contribue au bien-être de la société. Donc, quelles que soient nos capacités, quels que soient nos dons, le travail est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous place là où nous sommes. et nous sommes appelés à travailler avec lui, quels que soient les métiers. Malgré sa maladie, comme on peut trouver aussi souvent chez certains grands artistes, nous trouvons quand même certaines qualités qui correspondent à la vision chrétienne du travail et que le Seigneur nous appelle à développer. Il avait le sens de l'exigence, la recherche de la qualité, faisait preuve de régularité, d'efficacité, d'effort dans le travail. N'oublions jamais que notre façon de travailler doit être un témoignage au milieu des non-croyants. Parce que nous sommes, devons être conscients que nous sommes créés à l'image de Dieu, dont nous sommes créés pour donner aussi, témoigner dans cette société. Oui, notre travail, notre Dieu travailla pendant 6 jours et il se reposa aussi le 7e jour. Il se reposa le 7e jour. La Bible nous dit, j'aimerais relire ces versets que nous avons vus la semaine dernière. Quelques deux versets, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, on nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Est-ce que Dieu se reposa parce qu'il était fatigué? Bien sûr que non. Le repos apporte, a aussi des bienfaits. Nous avons besoin de garder cet équilibre. Ce que nous essayons encore de faire vraiment vite, un survol aussi dans les jours à venir. Le philosophe Kant disait: le meilleur repos est celui qui suit le travail. Que Dieu nous aide à être toujours ces bons employés, ces bons chercheurs, ces bons, comme on a remarqué, on a découvert récemment, on a découvert peut-être, oui, que les aides-soignants étaient utiles à la société. On a découvert que les femmes de ménage, ceux qui font le ménage, étaient utiles à la société. Ils n'étaient pas mieux que les autres. On n'était pas mieux que les ingénieurs ou mieux que les chercheurs. Non, mais que chacun est utile. Donc Dieu s'attend à ce que nous fassions. Nous travaillons avec clarté, nous travaillons avec rigueur, avec persévérance pour la gloire de Dieu. Amen.